Nouvelle édition de l'économie en question, quatre experts, chercheurs, professeurs d'économie réunis aujourd'hui pour commenter l'actualité de la semaine, pour confronter et rapprocher leurs points de vue, pour proposer leurs analyses et se rapporter, c'est toujours souhaitable, à la théorie économique. On a choisi deux sujets ce matin. D'abord, l'introuvable budget européen. Nous nous apprêtions avec ce titre, le même titre, à discuter l'adoption du budget 2004-2020 à l'issue de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles. C'était jeudi et vendredi, donc jusqu'à hier soir tard. Mais voilà, les 27 se sont séparés sans parvenir à s'entendre, comme ils l'avaient d'ailleurs laissé entendre les jours précédents. Certes, ils se sont voulus rassurants. Madame Merkel était, je cite, satisfaite des discussions. On a trouvé l'esprit très amical et constructif. De son côté, Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, croit à un accord en début d'année prochaine, ce dont d'autres doutent, semble-t-il. Il est vrai que par le passé, d'autres négociations sur le budget ont nécessité plusieurs rencontres. Tout de même, que révèle ce nouveau blocage? Comment le situer dans cette année 2012 si agitée, si pleine de rebondissements pour l'Union européenne et pour la zone euro? Comment interpréter justement les positions des pays hors zone euro, Royaume-Uni en tête, mais aussi celles des pays à l'est de l'Europe? Nous chercherons des réponses à toutes ces questions. Deuxième sujet, la France vue par les autres, fiction et réalité. Notation, deux agences ont publié mercredi et vendredi de nouvelles estimations. Attractivité, taux d'emprunt sur les marchés, réaction des bourses et relations avec ses partenaires économiques, sans parler de très récents articles parus dans la presse internationale. Comment juge-t-on l'économie française hors de ses frontières? Faut-il nous en plaindre? Pourquoi tant de haine, pourrait-on dire? Ou au moins, faut-il regretter des jugements que nous pourrions trouver injustes, malveillants? Ou bien au contraire, sont-ils optimistes? Il nous a paru intéressant de proposer à nos experts ce petit exercice d'introspection, pas sûr d'ailleurs qu'ils soient tous du même avis. Sont donc avec nous aujourd'hui David Tesmar, professeur d'économie à l'École des hautes études commerciales, Xavier Timbaud, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, Nicolas Bavraise, économiste et historien, et Olivier Pastret, professeur à Paris 8. Et puis je vous rappelle, notre troisième séquence, ce sera en toute fin d'émission. Comme nous en avons l'habitude, nous leur demanderons quelques actualités dites invisibles, celles qu'ils auront repérées pour nous. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct dans ce studio. Bonjour à tous les quatre. On commence par l'Union européenne, cet introuvable budget. Trop de désaccords entre les uns et les autres a empêché effectivement de conclure cette séance de hier soir. Mais en revanche, un accord parfait sur un seul point, réduire ou au moins ne pas augmenter le budget européen. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la situation? Non, à l'air de dire Xavier Timbaud.
Je pense qu'il faut, comprendre ce sommet européen comme un couple qui pense à divorcer, qui traverse une crise grave dans son
dans sa vie quotidienne. Mais qui mettez-vous dans le couple?
Ah, le couple, c'est tous les membres de l'Union européenne et qui se trouve.
C'est pas tout le monde.
C'est un couple moderne.
Oui, c'est un grand couple. C'est une famille très composée. Mais
vous avez une vision du couple qui est
large. Comme disait Sacha Guitry, les chaînes du mariage sont tellement lourdes qu'il faut être plusieurs pour les porter. Donc c'est un couple qui songe à divorcer et qui se trouve à devoir planifier ses vacances pour les 7 années qui viennent. Et évidemment, le cœur n'y est pas. C'est-à-dire que chacun est un petit peu face à une situation un peu surréaliste, comme dirait Olivier Pastret. C'est-à-dire,
il n'a plus le droit, les lecteurs en ont assez, les auditeurs en ont assez de cette formule.
Donc, comme disait Olivier Pastret, il s'agit
comme dira Olivier Pastret,
de se projeter dans l'avenir alors que le présent et le quotidien est totalement obscurci par la crise, par les difficultés des pays, par les doutes des pays quant à l'existence de la zone euro, quant à leur participation à l'euro. Le Royaume-Uni songe à faire un référendum pour sortir de l'Union européenne. Les autres États membres veulent que le rabais du Royaume-Uni soit réduit. Le Royaume-Uni ne veut pas voter un budget dans une situation d'austérité parce que ça lui paraîtrait indécent. Sachant quand même que c'est un budget pour la période 2014-2020. Donc, il faut espérer, y compris qu'au Royaume-Uni, qu'en 2020, l'austérité au Royaume-Uni soit terminée. C'est-à-dire que là, voilà, il s'agit de savoir est-ce qu'on va faire le système de satellite Galiléo ou pas. C'est des décisions qui sont, pour certaines, structurantes de l'avenir. Et voilà, mais ça montre cette incapacité aujourd'hui à se projeter dans l'avenir, qui, pour part, est assez légitime. C'est-à-dire que tout le monde a le nez collé sur comment gérer la Grèce, comment sortir de la crise, comment
Mais justement, retrouver... Xavier Timbaud, c'était un petit peu dans mon chapeau, dans mon titre. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que cette année, j'allais dire enfin, l'Europe a, par la force des choses, poussée par la crise, nous l'avons dit à plusieurs reprises, a pris des décisions importantes, ça a semblé pour le moins un peu plus soudé qu'avant, et rien ne se passe. Comme chaque budget, on a le sentiment que chacun tire la couverture à soi.
Oui, l'Europe a pris des décisions importantes, mais dans ces décisions importantes, dans le fiscal compact, par exemple, il y a cette fameuse taxe sur les transactions financières qui hérisse le poil de nos amis britanniques et qui refuse d'entériner un budget dans lequel cette taxe sur les transactions financières va faire partie des ressources. Donc,
y a tout le monde veut parler.
Tout un tas de...
Oui, parce que
je discorde.
Parce que Xavier a une vision de l'Europe qui est quand même très, très, très étonnante. Hein. Je rappelle que surréaliste, ça veut dire procédé de création et l'expression libérée du contrôle de la raison, ce qui ne me paraît pas être un gros mot et adapté malheureusement à bien des situations économiques.
En ces temps d'exposition d'Ali, c'était important de le rappeler.
Merci. L'Europe n'implose pas plus aujourd'hui qu'hier et que demain. Je conteste pas qu'il y ait des tensions extrêmement graves, qu'elles continuent, que l'Europe aille trop lentement. Mais si vous regardiez de temps en temps le verre à moitié plein et de temps en temps les trains qui arrivent à l'heure, ça donnerait une meilleure vision de la réalité. On discute, le bout de gras. Là où je suis de votre côté, c'est que c'est un peu déprimant de voir que les égoïsmes nationaux sont toujours aussi forts qu'avant, d'où le fait qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à avancer parce que chacun arrive avec sa PAC pour l'un... son chèque pour l'Angleterre, mais on a, me semble-t-il, avancé, ne serait-ce que parce qu'on s'est parlé, et on va reprendre le dossier au début de l'année prochaine, et on trouvera une solution.
Bien, c'était Olivier Pastret, pardon Nicolas, David Tesma, ça fait rire Xavier Timbaud.
Donc là, effectivement, je crois qu'il faut ce qui est bien pour replacer un peu le débat en perspective chiffrée, c'est qu'il faut regarder les contributions nettes de chaque
pays.
S'il vous plaît. Donc on a... en gros, la France c'est 20%, l'Allemagne c'est 20%, enfin la France c'est un petit 20%, l'Allemagne c'est 20%, etc. Les montants dont on parle, c'est à peu près 100 milliards d'euros par an pour la période à venir, un peu plus de 100 milliards d'euros par an. Donc 100 milliards d'euros par an, ça a l'air beaucoup, même si c'est l'Europe, c'est un grand continent, 100 milliards d'euros par an, c'est quand même 5 ou 6 points de PIB français. Donc c'est quand même
beaucoup.
Non, mais c'est pas négligeable. Mais en fait, c'est beaucoup moins que ça, c'est ça mon point. Mon point, c'est qu'en fait, chaque pays est dans une posture où il cherche à minimiser sa contribution nette, d'accord ? C'est-à-dire l'écart entre ce qu'il paye et ce qu'il reçoit. Ces contributions nettes sont microscopiques, c'est-à-dire que l'Allemagne, qui est le plus gros contributeur net, paye 9 milliards d'euros par an en net, c'est-à-dire paye 9 milliards de plus qu'il ne reçoit. 9 milliards, c'est un demi-point de PIB. La France, 6 milliards d'euros. Le Royaume-Uni, 4 milliards. Donc, en ce sens, le Royaume-Uni contribue à peu près autant que la France, hein, par rapport à son PIB, par rapport à sa taille. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du Royaume-Uni. Et inversement, c'est la Pologne qui est le plus gros récipiendaire net, qui reçoit 6 milliards d'euros par an en net. Donc voilà, donc vous avez... Donc en gros, pour comprendre un peu la géopolitique... Et puis il y a aussi un autre chiffre intriguant, c'est le Luxembourg, qui est receveur net de 1 milliard d'euros par an, alors que c'est le pays le plus riche de l'Union. Ça correspond à 3% du PIB luxembourgeois. C'est un point aberrant, assez étrange.
Oui,
quoi qu'il arrive, ce que je veux dire, c'est que les transferts, si vous voulez, sont très très petits, et que déjà, on est en train de s'écharper sur des transferts qui sont microscopiques. Donc, ça augure mal, effectivement, de la construction européenne dans le futur. En tout cas, de l'Union à 27, ça, c'est une certitude.
Oui, il faut toujours insister sur le fait qu'ils étaient 27 hier, parce qu'on parle très souvent, nous, ici, de l'Union... De la zone euro, en gros. Et donc, j'aimerais qu'on prenne le temps, effectivement, de parler, vous venez de le faire avec la Pologne, des autres pays. Juste, vous avez bien fait de rappeler tous ces chiffres. Est-ce que je peux encore en donner deux avant de donner la parole à Nicolas Baffray ? Et vous me dites, parce que c'est pas toujours facile de comprendre aussi comment se construit ce budget. Moi, j'ai vu qu'il était établi donc annuellement, qu'il retrace les recettes et les dépenses de l'Union européenne, vous venez de le dire, que l'Union européenne ne prélève elle-même aucun impôt, ce qui a fait étiqueter Olivier Pastret quand j'en ai parlé avec lui tout à l'heure. Le budget est donc financé, dit-on, par des ressources propres, qu'il doit être
Enfin, c'est les contributions c'est des États Nicolas pour 80%, Mavray. Mais il y a quand même les droits de douane et la TVA.
Alors voilà, c'est fait sur les droits de douane et la TVA, mais ce sont quand même en grande partie les contributions des États assises sur leur produit intérieur brut, c'est-à-dire sur leur richesse nationale.
À hauteur de 80%, oui.
On est d'accord. Ce budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, et l'Union n'est pas autorisée à recourir à l'emprunt pour couvrir ses dépenses. Juste quelques indications que je souhaitais donner, que l'on trouve d'ailleurs assez facilement sur les sites de notre gouvernement et de Nicolas Mavray.
Alors, moi, je ne partage pas le pessimisme de Xavier Timbaud, mais je le rejoins sur le caractère curieux de cette négociation. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé en 2004-2005. C'est-à-dire qu'en 2004, les États se sont écharpés. Et en 2005, alors même que c'était sous présidence britannique, Tony Blair, qui avait donné son veto en 2004, a finalement parrainé un accord sur le budget qui était assez éloigné des positions britanniques. Donc, l'espèce de dramaturgie européenne, pour l'instant, on est dans les grands classiques. Ce qui est très classique également, c'est ce dont on discute, parce qu'on a rappelé les contributions nettes, mais de quoi est-ce qu'on discute ? On discute d'abord du montant global du budget. Donc, pour rappeler les grandes positions, la commission au départ était à 1060 milliards d'euros, elle est revenue à 1040. À l'opposé, on a les Britanniques qui étaient à 900, qui sont montés à 930. Et on a l'Allemagne qui est l'espèce de poids moyen, qui est à 1% du PIB européen, ce qui fait 960 milliards d'euros.
Et tout ça étant pour les 7 années du budget.
Absolument. On parle là de 2014-2020.
Et encore, c'est des contributions brutes, c'est-à-dire 1%, c'est une contribution brute. La contribution nette de l'Allemagne, c'est encore moins que ça. C'est 0,4.
Non, mais là, je parle en termes de... C'est 1% brut du PIB de l'Union européenne.
Ah, oui.
Puisque c'est comme ça que ça se définit, les différentes positions, l'espèce de point moyen, c'est 1%. Pour mémoire, aujourd'hui, on était à 1,12%. Donc ça montre, je vais y revenir, mais c'est quand même un des éléments de rupture. Et M. Van Rompuy, qui est donc le président qui est censé faire la synthèse, il est aujourd'hui à 985 milliards d'euros. Donc, premièrement, le niveau du budget et les positions. Deuxièmement, sur les recettes...
Il pourrait même, pardon Nicolas, vous interrompre, c'est une information de ce matin, il pourrait même accepter de toucher au budget du fonctionnement des institutions, des salaires des personnels, donc descendre encore un peu.
Je vais y revenir.
Vous allez
y venir,
d'accord.
Il y a trois objets. Enfin,
c'est ce qu'il a laissé entendre aujourd'hui.
C'est ça qui est problématique. C'est une discussion purement budgétaire. Donc, dans le budget, on a quoi ? On a le montant absolu, les recettes et les dépenses. Et c'est exactement là-dessus que portent pour l'instant les discussions. Le montant absolu, autour des recettes, le principal problème, ce sont les fameuses ristournes. Donc la ristourne britannique qui représente 3,6 milliards d'euros. Mais il y en a d'autres qui se sont greffés du côté de l'Allemagne, Autriche, Suède, Pays-Bas. Et grosso modo, les deux pays qui n'ont pas de ristourne et qui sont des contributeurs nets, c'est pour l'instant la France et l'Italie, ce qui est paradoxal parce que ce sont des pays qui sont plus pauvres. Dernier élément là-dessus, c'est que la ristourne britannique, théoriquement, on ne peut pas y toucher parce qu'elle est inscrite dans les traités, alors que les autres ristournes, normalement, n'étaient valables que pour la période 2007-2013. Et le dernier élément, c'est les dépenses, mais là encore, rien de très neuf. La première dépense, c'est la politique agricole commune qui subit les foudres des Britanniques et d'un certain nombre des pays aussi un peu comme l'Allemagne et l'Europe du Nord. Ensuite, le budget de cohésion défendu par le Sud et surtout par les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est et attaqué par un certain nombre d'autres. Alors, voilà un peu quels sont les thèmes de négociation. De quoi est-ce qu'on peut s'étonner quand même ? C'est qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé en Europe. C'est-à-dire que c'est exactement les grands classiques sur lesquels on s'est déjà battu en 2004.
On ne prend pas acte de ce qui a pu se passer depuis.
On ne tient absolument pas compte de la crise de l'Europe et de la zone euro. Tout le monde, les économistes, comme un certain nombre de responsables politiques, ont expliqué que la sortie de cette crise devait plutôt se faire par plus d'intégration et de mutualisation. On n'en voit aucune trace.
Le deuxième élément,
c'est que le fameux pacte de croissance qui n'existe pas et qui est complètement fictif, la seule manière de lui donner de la réalité, c'est à travers ce budget européen. On pourrait le faire de trois manières. Ouais. Avec non seulement discuter du niveau, mais de la flexibilité de ses dépenses, parce que l'autre problème, c'est que ce budget, il est complètement rigide. Deuxièmement, avoir un certain nombre de recettes propres. Ça, c'était notamment la question de la taxe sur les transactions financières ou une augmentation de la TVA européenne. Et le troisième élément, c'est d'avoir une espèce de fonds pour la croissance qui serait un peu flexible et dans lequel on pourrait mettre des programmes d'infrastructures, des programmes de recherche. Et donc, pour l'instant, c'est ça qui me semble la vraie critique à porter. Ce n'est pas tellement le fait qu'il va y avoir un accord, mais c'est un accord qui repose sur des bases qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation économique de l'Europe.
Vous avez parlé de rigidité, c'est quand même une des difficultés, hein, et on est 27 pays, il faut toujours le rappeler. Ce sont des budgets quand même d'une très très rare lourdeur à négocier. On a le sentiment que le moindre détail demande d'infinies discussions. Et c'est dans un cadre national, on ne peut pas l'imaginer, cela.
Il n'y a pas que les fonds de cohésion qui sont les gros paquets, puisque ça représente aujourd'hui 421 milliards d'euros et 355 milliards d'euros. En fait, ce sont des recettes qui sont préaffectées. C'est-à-dire que chaque pays a droit à...
Et donc, il veut son juste retour, comme ils disent.
Il veut son juste retour, et surtout, comme les critères sont déjà affectés, on sait exactement où va aller l'argent.
Olivier Passeret.
Est-ce qu'on a le droit de mettre un petit peu d'optimisme après, vous verrez, je suis aussi critique, mais vous venez de décrire une chose, c'est une discussion budgétaire. Bon, si on transpose au cas français, ben les ministères veulent le plus d'argent possible, puis à un moment, on négocie, il y a des arbitrages qui se font, c'est ce qui se passe en Europe. Je crois qu'il ne faut pas... Je crois que tous autour de la table, on est d'accord pour dire qu'il faudrait aller un peu plus loin, que si on veut faire du fédéralisme, il va falloir passer au-dessus de 1%. Mais enfin, dans ce qui a été décidé, on a un cadre budgétaire et c'est normal. Moi, il y a deux sujets qui me paraissent importants, et là, je vais vous rejoindre par contre, c'est un... Comment faire en sorte que l'Europe ait des ressources propres? Ça a été évoqué par Xavier, je crois que dans ce domaine-là, la taxe de transactions financières a été citée, il y a aussi la taxe carbone.
Discutée, finalement, oui, ça n'a pas été fait, n'a pas été retenu.
Et puis deuxièmement, la répartition entre les différents types d'aides. La PAC, c'est quand même une absurdité totale et absolue. Je veux dire, le problème de l'autonomie alimentaire européenne n'est pas un problème aujourd'hui, donc là, vraiment, il y a un problème majeur. Et là où je suis très déçu par la position de la France, c'est à force de vouloir défendre la PAC, quoi qu'il arrive, on lâche sur l'autre truc, et notamment sur ce qui concerne la recherche et le développement. Tous les budgets dans ce domaine-là ont été plus tendus.
Oui.
J'entends bien qu'on discute d'un
Nicolas
budget,
Bavray.
Mais il n'empêche qu'on est dans la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30, que l'Europe est le seul des grands pôles de la mondialisation qui est en situation de double dip, donc de nouveau en récession, et donc on peut se dire que certes, on discute d'un budget, mais que c'était peut-être l'occasion de réfléchir à la manière de le mettre au service de l'économie.
Or, mais c'est un révélateur puissant. C'est un révélateur puissant du manque de volonté d'intégration et de mutualisation. Enfin, la mutualisation, déjà à la base, quand il faut distinguer mutualisation et transfert. Quand on parle de mutualisation, c'est qu'on porte chacun un risque. On a chacun un risque que notre maison brûle, et celui dont la maison va brûler va recevoir de l'argent des autres. Mais si on sait déjà quelle maison a brûlé, évidemment, ça s'appelle plus de la mutualisation, ça s'appelle du transfert. Il faut regarder les budgets nets et pas les budgets bruts, c'est-à-dire il faut regarder le solde des contributions nettes. Quand on regarde les contributions nettes, c'est même pas 1% du PIB européen qu'on a, c'est 0,25% du PIB européen qui va de certains États à d'autres États. C'est vraiment des transferts microscopiques. Et pour moi, c'est des préférences révélées de l'Europe, c'est-à-dire ce que veut l'Europe, c'est pas plus que ça. Donc il va falloir fonctionner sous ces contraintes-là. Enfin,
oui.
On peut toujours rêver d'avoir une espèce d'État supranational, mais il sera pas là.
Concernant la PAC, aucun soutien à attendre du côté de l'Allemagne. Angela Merkel l'a bien fait savoir, et probablement la France devra renoncer à son budget actuel qui lui est alloué pour la PAC. Vous en êtes d'accord? On se rappelle des bagarres homériques qu'avait livré Jacques Chirac pour maintenir ce niveau jusqu'en 2013. C'était déjà pas évident à l'époque, vous en souvenez.
Pour résumer ce qui a été dit, c'est qu'on assiste plus à un débat d'une assemblée de copropriétaires que à celui d'une démocratie. Voilà.
Et qui est le syndic?
Mais justement, il y a le syndic dans une assemblée de copropriétaires, il ne le fait que compter les points. Et on assiste à l'étalement des intérêts particuliers et des comptes d'apothicaire sur je reçois un peu moins que ce que je donne, un peu plus que ce que je donne. Et voilà. Et le truc est paralysé. C'est-à-dire que le truc est incapable de prendre des décisions et de donner un tout petit peu d'allant à cet instrument. C'est aussi le résultat d'une conception intergouvernementale de la négociation du budget et non pas parlementaire. Donc, dans lequel il n'y a aucune notion de compromis politique qui est possible.
Le Parlement donne son avis, mais avant, c'est bien cela.
Oui, mais ce n'est pas lui qui négocie le budget.
Il n'a pas ce pouvoir.
Il n'a pas ce pouvoir. Donc, à partir de là, c'est de l'intergouvernemental. Et on se retrouve dans des situations, vous parliez de la PAC et de la France. Voilà, la France a dit, ben, si le Royaume-Uni n'arrête pas de nous embêter avec son rabais et la diminution du budget, nous, on ne lâchera pas sur la PAC. Et voilà, mais ça, c'est une assemblée de copropriétaires. Hein. Si le voisin ne veut pas payer pour les poubelles, ben, moi, je ne paierai pas pour l'ascenseur.
Non, mais...
Et à la fin, il y a ni ascenseur, ni poubelle.
Vous avez une vision du couple et de la copropriété qui est quand même curieuse. Le couple à 27, je ne connaissais pas. Et la copropriété, en général, dans la copropriété, le syndic, et je vais aller dans votre sens, mais encore plus loin, le syndic a quand même la capacité de canaliser un peu les tensions et de prendre des décisions. Alors que là, c'est vrai que malheureusement, le syndic, c'est vendre une poille et qu'on a beaucoup de mal à prendre des décisions communes. Donc dans ce domaine-là, il y a malheureusement, je suis d'accord avec vous tous, encore beaucoup de progrès à faire. Mais ne regardez pas encore une fois toujours le verre à moitié vide. L'Europe, c'est 58. Ça va se faire dans les 20 ans qui viennent. Ce qu'on voudrait voir aujourd'hui, ça va se faire dans les 20 ans qui viennent. Et objectivement, ça a beaucoup avancé depuis 3 ans.
Arrêtons-nous un peu sur le Royaume-Uni. On vient déjà d'en parler évidemment à plusieurs reprises. Est-ce que ces tensions vont finir par pousser le Royaume-Uni vers la sortie, ou est-ce qu'il va de lui-même souhaiter sortir, ou vous avez plutôt le sentiment que David Cameron fait un peu des effets de manche en agitant, en brandissant cette menace?
Non, il faut les sortir.
Les
difficultés actuelles.
Oui, non, mais ça illustre assez bien quand même que l'optimisme et l'irénisme d'Olivier Pastré, parfois quand même, touche ses limites, quoi. C'est-à-dire, alors l'Europe, tout va bien, tout est bien, c'est un projet qui avance, etc. Mais bon, il faut virer les Anglais, il faut virer les Allemands, les Polonais nous emmerdent. Enfin, je veux dire, l'Europe, c'est la France, quoi, au bout du compte. Donc,
Non.
Olivier Pastré.
Il y a deux choses. Il y a un, je rappelle que tout ce qu'on est en train de dire, c'est la révélation pour la énième fois de la folie du traité de Nice, parce que objectivement aujourd'hui l'Europe à 27 est ingouvernable, et avoir voulu l'élargir avant de l'approfondir est une absurdité. Après, l'Angleterre joue avec l'Europe comme un chat avec une petite balle. Bon, s'ils veulent sortir, qu'ils sortent, franchement. C'est pour ça que j'arrête là mon mouvement d'exclusion.
Mais à nouveau le Royaume-Uni est quand même contribue à peu près autant que la France au budget européen.
Non, enfin, je sais que vous aimez l'Angleterre, mais moi aussi.
Pas particulièrement, mais faut quand même. C'est beaucoup plus politique que vraiment sur des vraies masses financières.
56% des Britanniques se déclarent favorables à une sortie de leur pays de l'Union européenne. Je veux dire que cela veut dire que David Cameron a quand même une pression très très forte.
Oui, mais on peut remarquer que
peut-être va-t-il loin dans ses déclarations à cause de cela.
Il a été singulièrement prudent puisque. Il n'a pas brandi de menace de veto dans cette discussion jusqu'à présent. Et donc,
mais il n'a rien lâché non plus, il n'a rien perdu là.
Ben, pour l'instant, comme on va rediscuter, la seule décision, ça a été de porter la durée du travail des fonctionnaires de la Commission à 40 heures. Donc, pour l'instant, c'est le seul élément de consensus des États. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne font pas la même chose.
C'était une réduction ou une augmentation, du coup ?
Une augmentation. Mais on se demande pourquoi les différents États ne font pas la même chose dans leurs fonctions publiques respectives, pour ceux qui sont en dessous. Mais passons.
C'est hors sujet,
ce qui est
ça.
Plus intéressant, c'est que je pense que d'abord, il faut bien voir que l'économie britannique aujourd'hui, elle vit à 80% avec l'économie du continent européen. Donc, quelles que soient les postures des différents partis britanniques, c'est quand même une réalité importante. Et j'ajoute que certes, les Britanniques souhaitent conserver à la City sa place tout à fait, sa place financière, une place prépondérante en Europe. Et donc, ils ne sont pas prêts à se laisser imposer des réglementations par le reste de l'Europe. Mais je pense, contrairement à beaucoup, que les Britanniques ont un rôle qui est positif dans la gestion de l'Europe. Et il y a une culture de l'état de droit qui manque singulièrement à un certain nombre d'autres pays. Et les Britanniques jouent un rôle positif de ce point de vue. Et leur vision du libre-échange a au moins un mérite, c'est que là encore, quand tout le monde parle d'intégration, tout le monde sait qu'une des sources de croissance future de l'Europe, c'est le fait de relancer le grand marché et notamment de libéraliser les services. Donc les Britanniques ont au moins cette vertu de porter ce type de discours, alors qu'on sait qu'il est loin encore d'être partagé. Et le troisième élément, c'est que les Britanniques, contrairement à la France, ont eu une faculté de comprendre les problèmes des nouvelles démocraties issue de l'Empire soviétique, qui était aussi assez grande. Et donc, pour ces trois raisons au moins, je pense que, certes, les Britanniques n'ont certainement pas raison sur tout, mais expliquer que leur arrivée et que les problèmes de l'Europe ne sont absolument pas simplement liés à la présence des Britanniques, et il y a
Olivier Passeret, Xavier Timbaud veulent vous répondre.
On ne peut pas laisser ce procédé de création et d'expression libérée du contrôle de la raison, puisque je n'ai plus le droit de dire surréaliste. Je vais vous embêter avec cette expression jusqu'à ce que vous me laissiez redire surréaliste. Ce que vous venez de dire, Nicolas, c'est extrêmement sympathique, mais quand vous regardez dossier technique par dossier technique, et notamment sur les dossiers financiers, l'Angleterre a un rôle perturbateur dans les négociations qui est avéré. J'aimerais bien...
C'est exactement ce que j'ai. Oui, ils défendent les intérêts de la cité. Quand je regarde leur position sur un certain nombre d'infrastructures... Sur d'autres aspects, ce n'est pas du tout le cas.
Oui, ça dépend. Enfin, chacun défend son bout de gras dans cette affaire. Non, mais je crois surtout qu'il ne faut pas oublier aussi que les eurosceptiques britanniques, enfin le fort poids des eurosceptiques dans l'opinion britannique, c'est qu'ils ont quand même un peu le sentiment d'avoir eu raison, en particulier dans l'opposition qu'ils ont eue à l'entrée dans l'euro. À l'heure actuelle, quand même, l'Angleterre est quand même contente de ne pas être entrée dans l'euro, d'avoir le contrôle de sa
création. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur la PAC, il est clair que c'est la France qui bloque. Vous expliquez que c'était une politique absurde. Bah, la France, effectivement, défend ses intérêts en bloquant la réforme de la PAC. C'est pas pour ça qu'il faut la sortir de l'Union européenne.
Xavier Timbaud, là-dessus.
Moi, je suis très très sensible aux arguments de Nicolas Bavrez sur le Royaume-Uni. Je pense que tout ce qu'il dit est assez vrai. C'est-à-dire que vraiment, le Royaume-Uni constitue un pôle d'équilibre dans cette Union européenne. Voilà, et que ils ont un rôle qui est nécessaire. Mais il y a cette question de l'euro qui, en fait, est à mon avis le cœur et le fond du problème. L'Union européenne, au départ, elle était indissociable de la zone monétaire unique. Il devait y avoir coïncidence entre les deux. Et le Royaume-Uni a eu une exception temporaire pour rentrer dans la zone euro. Aujourd'hui, cette exception temporaire de la part du Royaume-Uni s'est muée en une fin de non-recevoir sur l'entrée dans la zone euro.
On ne peut pas leur en vouloir.
Et puis,
qu'il y ait des raisons à cela, ok, très bien. Et après tout, pourquoi pas, c'est un choix. Ceci étant dit, ça pose aujourd'hui un problème de taille, qui est que toute l'infrastructure démocratique de l'Union européenne devait se construire autour de cette idée de monnaie unique, de convergence forte des intérêts et qui devait donner une dynamique forte à la construction démocratique. Et qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni dit « Bah oui, mais moi, je ne suis pas dans la zone euro et moi, je ne serai pas dans vos accords financiers de régulation bancaire parce que je ne les veux pas. Et moi, je ne serai pas dans ceci et dans cela. » C'est-à-dire, je suis dans une situation où je peux choisir de ne pas être dans telle ou telle dimension de votre Union européenne qui ne m'intéresse pas complètement. Mais ok, ça me paraît tout à fait légitime. Ceci étant dit, ça pose un problème aux pays de la zone euro, qui est qu'il faut que les pays de la zone euro se construisent une forme de démocratie et une alternative à l'Union européenne qui, pour part, doit reprendre un certain nombre des prérogatives de l'Union européenne. Et donc, du coup, ça pose la question de savoir qu'est-ce que devient cette Union européenne qui devait être au final la zone euro et qui va devenir une extension géographique de la zone euro, donc un espèce d'accord de libre-échange.
On revient au noyau dur, en fait. On revient à la théorie du noyau dur.
Vous disiez un mot des autres pays,
justement. L'idée des plusieurs vitesses, elle a toujours été admise. Il y a un autre pays dont personne ne parle de le contraindre ou même de sortir, c'est la Suède qui a aussi sa monnaie.
Qui soutient le Royaume-Uni d'ailleurs dans ses positions.
Qui fait partie du grand marché, mais personne ne parle.
Ça pose pas exactement le même problème par sa taille.
Et je donnerai un autre exemple sur ces plusieurs vitesses. Il y a un autre dossier sur lequel les Britanniques apportent une contribution tout à fait positive, c'est l'Europe de la défense. Il n'y a plus que deux pays qui ont des systèmes militaires qui, aujourd'hui, sont performants et qui ont gardé à la fois des appareils militaires et puis une capacité d'intervenir à l'extérieur, c'est le Royaume-Uni et la France. Donc, c'est un des points sur lequel il y a une forte demande.
Alors, l'Europe de la défense, ce n'est pas totalement convaincant. Ce que je veux dire, on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup avancée. Donc, il vaudrait beaucoup mieux qu'ils soient en dehors et qu'au sein de l'OTAN, on discute avec eux. Non, ça, franchement...
Pas du tout. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font en matière de renseignement, de protection des infrastructures, de stabilisation de la périphérie de l'Europe. Il y a eu des interventions qui ont été conduites. On peut être pour ou contre l'intervention en Libye, mais il se trouve que, qu'on soit pour ou soit contre, on est obligé de reconnaître que c'est une intervention qui a été conduite par l'Europe et qui a abouti à, en tout cas, une transformation importante en Libye. Alors ensuite, on peut la juger comme on veut, mais mais ça montre qu'il y a quand même des choses réelles qui se font. On ne peut pas dire que ça n'existe pas.
Mais dernière question.
Voilà pourquoi, je pense qu'il faut quand même avoir une vision un peu plus exacte et ne pas se limiter à la position des Britanniques sur le secteur financier et les règles applicables à la City.
C'est révélateur d'ailleurs de ce qui est en train de se passer en Europe, me semble-t-il, parce que j'ai du mal à vous faire parler de l'Europe centrale et orientale. Que va-t-elle faire? Qui a au fond un peu le leadership sur ces pays? On a vu une alliance un peu de circonstances peut-être entre la Pologne et la France sur la question agricole, mais n'est-ce pas l'Allemagne quand même qui met la main, je ne veux pas dire qu'elle les influence plus non, que ça d'ailleurs, mais qu'avez-vous à dire sur l'attitude de ces pays? On a peu entendu.
On les entend peu parce qu'ils sont bénéficiaires nets, donc voilà, au gré des alliances, je ne crois pas qu'il y ait de leadership de l'Allemagne sur l'Europe de l'Est en matière de vote à Bruxelles.
Enfin d'influence en tout cas, leadership c'est beaucoup trop dire.
Oui, influence parce que les relations économiques sont étroites, mais sur le plan diplomatique ça ne me paraît pas aveuglant. Non, vous mentionniez une alliance qui me paraît complètement perverse, parce que mon optimisme global ne m'empêche pas d'être parfois pessimiste. La Pologne et la France qui se mettent d'accord sur la PAC et je dirais presque pire, sur les financements régionaux pour défendre les régions françaises et les régions polonaises, c'est vrai que c'est des alliances qui sont, me semble-t-il, contre nature. Mais si je veux juste mettre un petit grain d'optimisme dans tout le pessimisme global, je signale que c'est la première fois qu'on a discuté, et vous l'avez évoqué, des salaires des fonctionnaires et des systèmes de retraite des fonctionnaires, ce qui est à mon avis un pas en avant, tout petit, mais qui mérite d'être noté.
Allez, dernières interventions. Xavier Tambour, vous voulez répondre à la question sur les pays d'Europe centrale?
Oui, je pense que fondamentalement, les pays d'Europe centrale, pour eux, il n'y a aucun doute, l'appartenance à l'Union européenne et même l'appartenance à la zone euro sont des conditions indispensables à leur stabilité macroéconomique et à leur croissance de demain. Donc de ce côté-là, ils n'ont aucun doute, aucun état d'esprit sur est-ce que oui ou non ils doivent intégrer l'Union européenne et participer à cette Union européenne, et est-ce qu'il doit y avoir un budget, etc. Après, je pense que ce qui les effraie le plus, c'est leur absence de véritable pouvoir sur cette Union européenne et le fait qu'elle soit dominée soit par l'Allemagne, soit par la France. Et c'est pour ça que le Royaume-Uni est très important pour eux, parce que c'est un contrepoids aux autres poids lourds de l'Union européenne qui est absolument nécessaire. Voilà, donc le libéralisme de façade des Polonais n'est là que pour rappeler à l'Allemagne et à la France qu'ils ont besoin de l'Angleterre.
Sur la Pologne, juste rappeler quelques mots. S'il y a un leader de cette zone, c'est effectivement la Pologne, qui est le grand pays de l'Europe centrale et orientale. C'est le plus gros bénéficiaire net du budget européen, avec 11,2 milliards d'euros. Et au-delà de la Pologne, il y a deux enjeux qui sont importants. Pour la PAC,
c'était pas tout à fait vos chiffres, David Douai?
C'était le plus gros, en tout cas.
C'est plus gros.
D'accord.
Pour la PAC, c'est la convergence des aides à l'hectare, parce qu'aujourd'hui, elles sont tout à fait... Elles varient selon les pays. Donc l'idée, c'est le deuxième enjeu central, c'est évidemment les fonds de cohésion, parce que c'est à travers ces fonds de cohésion, notamment, que se font les transferts en direction des nouvelles démocraties.
Et je voulais ajouter également les regrets de José Manuel Barroso, président de la Commission, qui quand même nous rappelle qu'on est en train là d'amputer des domaines clés comme l'éducation et la recherche, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Chaque milliard retiré au budget pluriannuel, dit-il, il l'a dit avant d'ailleurs la réunion, ce sont 4000 PME privées de financement, 600 chercheurs et leurs équipes qui ne pourront pas poursuivre leurs travaux.
Barroso qui se réveille,
sans parler du maintien du programme d'échange Erasmus, qui est en danger aussi, des programmes d'aide humanitaire, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. L'Europe connaît des taux de chômage inacceptables. Remettre en cause le fonds d'ajustement à la mondialisation, c'est priver de formation et de retour à l'emploi des milliers de chômeurs. Il fait bien quand même de rappeler tout cela. Rendez-vous en janvier pour la suite des discussions sur ce budget européen, qui, encore une fois, il n'y a pas d'urgence, on l'a dit, c'est en 2014. Mais enfin, il serait bien qu'on arrive à résoudre tous les problèmes que vous avez soulevés. C'est fini? Oui, David.
Non, il y a même encore moins d'urgence que ça, en un sens, puisque même si les négociations échouent, leur budget ancien est reconduit, etc. Donc il n'y a pas de... Enfin, tout n'est
c'est
pas
vrai. Merci à tous les quatre. L'économie en question, il est 11h33. Nous abordons notre deuxième sujet avec David Tesmarc, Xavier Tambour, Nicolas Bavret, Olivier Pastret aujourd'hui. La France et les autres, alors ça va un petit peu, c'est très, très large ce que nous voulons dire, mais au fond, quel est le regard porté sur l'économie de notre pays? D'abord, la presse allemande, la presse anglaise ne sont pas tendres. Est-ce que ça reflète des relations un peu fraîches entre les dirigeants européens? On vient d'en parler, c'est une des questions que je voudrais vous poser. Et puis, pour l'actualité, cette fameuse notation financière, nous en avons parlé la semaine dernière. J'y reviens puisque deux agences ont à nouveau fait connaître leurs notes, Moody's et Standard & Poor's. Pas de la même manière d'ailleurs, on peut en rediscuter là encore. Mais ce que je voulais également vous demander, c'est comment vous jugez les investissements directs, par exemple, pour la France, son taux d'attractivité par rapport à d'autres pays. Où sont les réalités, où sont les fantasmes? Qui veut commencer ses commentaires?
Juste, je pense que
Nicolas Barret, sur quoi vous arrêtez-vous? Voilà.
Voilà, pour bien poser le problème. Aujourd'hui, il y a. Non, mais
est-ce que le. Posons bien le problème.
Contrairement aux autres, il y a
deux jugerons de la qualité de la pose du problème a posteriori.
Non, mais les réponses seront différentes, je crois, sur le. Mais ça méritera au moins de le poser clairement. On a donc trois crises qui se poursuivent: la mondialisation, le choc déflationniste de 2008 qui continue à poursuivre ses effets, l'euro, la crise des risques souverains, et puis la crise française, le décrochage qui a été. Mentionné à plusieurs reprises. Donc, le problème central est le suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est devenue, pour elle-même comme pour la zone euro, le principal risque des mois qui viennent? C'est ça qui est discuté par le FMI, l'Union européenne, les sages allemands et
les
agences,
partenaires aussi,
et les agences de notation. Et donc, c'est, ensuite, on peut avoir des visions. Mais c'est ça, c'est dire que c'est quand même un problème. Qui est fondamental, parce que si on croit ce que disent toutes ces institutions, est-ce que je partage que si la France continue sur sa lancée, il va y avoir un choc majeur sur sa dette, que ce choc sur sa dette va relancer la crise de l'euro, et donc que cette relance de la crise de l'euro va déstabiliser un peu plus l'Europe et donc relancer et
attendez,
contribuer
attendez, Nicolas,
à une dépression mondiale, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement...
D'accord. Elles ne le disent pas toutes, Standard & Poor's cette semaine, c'est pas tout à fait le ton qu'elle a adopté. Après, on peut le lire de différentes manières peut-être, je ne sais pas, mais il est vrai que Moody's a choisi de retirer son triple A. Standard & Poor's dit pas... En revanche, nous pensons que les mesures adoptées sont utiles. Enfin, on pense quand même qu'on va dans une bonne direction. Autre agence qui ne s'est pas encore exprimée, qui prend un petit peu plus de temps pour le faire, c'est Fitch qui, a priori, devrait aller également dans ce sens d'encouragement des réformes en cours. Non, et l'autre question que je voulais vous poser, c'est que la France continue d'emprunter à des taux très bas. Est-ce que ce n'est pas un bon signe?
Oui. Non, mais parce que ce dont David on parle, Tespar. C'est quand même... Ça, on est tous d'accord qu'il va y avoir un problème de croissance potentielle en France, c'est-à-dire un problème de compétitivité, ça s'appelle comme ça, mais aussi de capacité à créer des emplois. Et d'ailleurs, les deux sujets sont complètement distincts. Le sujet de la compétitivité, c'est-à-dire de la balance commerciale et de la création des créations d'emplois, sont deux sujets un peu différents, même si les deux pèsent sur la croissance. Donc oui, il y a clairement un problème de croissance potentielle, mais c'est pas un scoop. Enfin, en un sens, on l'a pas appris la semaine dernière. D'ailleurs, quand vous lisez la décision de Moody's, essentiellement, ils basent leur décision sur rien qui ne soit un scoop. C'est-à-dire, il y a un problème de croissance potentielle en France. J'en ai pas sûr,
travail,
c'est difficile de réformer le pays. Bon, rien de vraiment.
Les charges
neuf,
sont trop élevées, etc.
Les charges sont trop élevées, etc. Donc, il n'y a rien de neuf. Et en un sens, ça peut continuer comme ça assez longtemps. C'est ça le drame de ce pays. C'est que ça peut continuer encore assez longtemps. Les marchés sont pas. Ils ne réagissent pas aussi abruptement que ce qu'on pense. Les gens, il faut bien que les gens placent leur argent quelque part. Donc, du coup, il y a toujours quand même de l'argent.
Vous ne répondez pas sur les taux d'emprunt. Vraiment, j'ai envie de savoir.
Parce qu'il faut investir quelque part.
Pourquoi est-ce que l'Italie a plus de mal que nous? Alors ça veut dire quand même que
mais l'Italie est plus
la France
que
est jugée en meilleure santé.
Non, mais attendez, parce que les marchés, dont on peut contester la
on
logique
va après.
Parfois, parce que les marchés considèrent que la France est dans une position qui est relativement acceptable. Je trouve que la présentation qu'a fait Nicolas tout à l'heure est très partiale et partielle. C'est vrai que, alors il y a vous citiez implicitement The Economist qui tous les ans fait un truc en disant que la France est au bord du gouffre, ça les amuse et ça fait vendre. Il y a évidemment le Financial Times qui en général prend le relais, mais en face de ça, moi j'ai un indicateur qui est quand même assez frappant. frappant, les investissements directs étrangers. Ça, c'est du vrai, c'est du solide. Ça veut dire les pays qui décident d'implanter des usines, donc de faire un investissement à long terme sur le sol français. Et ben, on est encore quatrième mondial. On a un peu baissé parce qu'avant, on était troisième. Enfin, c'est parfaitement satisfaisant. Par ailleurs, il y a une étude qui est sortie, dont on a évidemment beaucoup moins parlé, parce que c'est un train qui arrive à l'heure, qui a été fait par HEC et Ernst, qui place la France septième devant les États-Unis en termes d'image globale de la France. Alors, quand on rentre dans le détail, on voit bien qu'il y a à travers ce classement aussi des critiques qui sont faites à la France. Mais il faut quand même arrêter de considérer que les autres pays ont le mépris. Certains médias, oui, les autres pays continuent à investir en France gaiement.
Non, on est vraiment sur des sujets structurels et structurants. Enfin, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, là où j'aurais une appréciation assez différente de celle de Nicolas, c'est que je ne pense pas que c'est la séquence des trois mois qui viennent qui va jouer. On est sur du lourd. D'accord, donc c'est ça. Donc on est vraiment sur des... Tout ce qui va améliorer la croissance potentielle est bien, tout ce qui va la réduire est pas bien. Bon, il y a plein de choses, il y a beaucoup de dettes, ça c'est pas bon pour la croissance potentielle. Il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique, c'est pas bon non plus. Mais bon, on peut peut-être faire des choses, etc. Mais rien... Ça va pas péter dans trois mois. C'est pas ce qu'il faut déduire.
Que dit l'Observatoire des conjonctures économiques, monsieur le directeur du département analyse et prévision.
C'est pas ce que dit l'Observatoire. Mais je peux vous parler de ce que moi j'aurais envie de dire face à tout ça. Ces histoires de croissance potentielle, de compétitivité, etc. Ok, on pourrait en discuter pendant des heures. Il y a des tas de choses à dire. Il y a des tas de choses à dire en comparaison. Très bien. Et chacun a balayé dans sa porte la France la première. Maintenant, je pense que dans tout ça, il y a une erreur de diagnostic majeure. Cette erreur de diagnostic, ben, typiquement d'ailleurs, Nicolas Bavrez nous l'a exposée, c'est cette idée que la France va tellement mal qu'il est absolument aberrant aujourd'hui qu'elle puisse emprunter à des taux aussi faibles. Et donc, ça va finir par arriver. On va se retrouver face au mur de la dette, avec des taux d'intérêt qui vont augmenter, parce que brusquement, à un moment ou à un autre, ça devient tellement évident, on le dit tellement, tout le monde le dit, tout le monde est d'accord, ça va être sûr.
On va finir par se rendre compte
que ce n'est pas possible de prêter à la France qui va faire faillite. Et donc, du coup, comme il faut anticiper ce moment-là qui va se produire, il faut vite se dépêcher de tout faire ce qu'on doit faire. On ne sait pas très bien ce qu'on doit faire, mais il faut vraiment le faire très très vite, pour absolument éviter cette situation. Ben, je pense que ça, c'est une erreur, mais dramatique, d'appréciation de la situation. L'Europe est en crise, elle est très profondément en crise, le monde développé est très profondément en crise, double dip, risque d'explosion de la zone euro qui persiste, risque de défaut sur un certain nombre de dettes européennes, comme la dette espagnole, comme la dette grecque, risque d'explosion politique ou sociale dans ces pays-là, et c'est pas ce qui menace aujourd'hui la France, donc la bombe à retardement de l'Europe. On peut dire ce qu'on veut, mais elle n'est pas en France aujourd'hui. Le compteur, il tourne, la mèche, elle est allumée sur l'Espagne, sur la Grèce, sur le Portugal. Je veux dire, ouvrez les yeux, c'est là que ça se passe, 25% de chômage. Ce n'est pas en France. Les endroits qui vont exploser, c'est cela. Je termine. Dans cette situation-là, la France est un îlot de stabilité. Il y a des masses énormes d'épargne en euros à placer sur des titres sûrs. Eh ben, je suis désolé, mais Coca-Cola, Alcatel ne sont pas des titres sûrs. Alors,
non,
évidemment...
Il y a quand même une sagesse cachée dans ce qui est dit sur la France.
Bien sûr, il y a une sagesse cachée. Mais bien sûr, on peut toujours se regarder, se critiquer et dire on pourrait faire mieux. Mais bien sûr, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi comprendre les situations. La France est un îlot de stabilité dans cette crise financière. Et il n'y a pas assez de titres allemands pour absorber l'épargne européenne. Et donc, nécessairement, ben oui, le suivant sur la liste, qui a des masses de titres à proposer et qui les remboursera dans le futur, c'est la France. Et donc, du coup, elle paye des taux d'intérêt qui sont bas. Et plutôt que de dire attention, ça ne va pas durer, chuchoter tout bas, qu'on paye des taux d'intérêt bas parce que les gens vont s'en rendre compte et puis ça va bientôt s'arrêter, il faut s'appuyer sur cette dimension-là. Qu'est-ce que ça signifie que des taux d'intérêt sont bas aujourd'hui ? Ça signifie que la France peut emprunter
et peut résoudre
ses problèmes budgétaires à moyen terme, et donc du coup de s'occuper des priorités qui sont de résoudre. La première des priorités, c'est de résoudre la crise européenne.
Il ne faut pas caricaturer vos contradicteurs.
Juste pour terminer ce propos, regardez ce qui se passe en Angleterre. L'Angleterre a un déficit de la balance courante qui est supérieur à celui de la France, alors que la livre a été dévaluée. L'Angleterre a un déficit public qui est le double de celui de la France. L'Angleterre a une croissance et des perspectives de croissance potentielle qui sont aussi déprimées que celles de la France. Le taux de chômage en Angleterre a augmenté de façon assez forte ces dernières années.
À combien emprunte l'Angleterre, on le sait ?
L'Angleterre emprunte à 0,2%. 0,3 points de moins que la France. D'accord,
d'accord.
Mais son marché du travail, il est réputé être plus flexible. Les mesures qui devaient être prises ont été prises. On voit bien que ça ne change rien à la situation de l'Angleterre. Donc, ne rêvez pas. Si demain, on flexibilise le marché du travail, si demain, on fait des efforts, on baisse les charges sociales, qui sont aussi très basses en Angleterre, on ne va pas améliorer la situation de la France.
Oh, mais c'est si juste une dernière information, pardon, avant de vous laisser réagir.
Transformant la France en Angleterre, l'Angleterre est dans une situation pire que la France. Et ça n'empêche pas de continuer à pouvoir emprunter à des taux qui sont bas, et qui reste bas et dont personne ne doute, même pas le Financial Times ou The Economist. Ce qui est quand même curieux, enfin, je veux dire, remplacer tout dans l'analyse de la France, tous les mots France par Angleterre, ça marche aussi. Donc,
défense bien illustrée, bien illustrée par Xavier.
Hein,
non, mais vous donnez un point de vue fermement.
Je veux dire, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Si on pense qu'aujourd'hui, l'Europe a des problèmes de compétitivité dans les pays,
on a compris, Xavier. Non, juste un point quand même important, je trouve qu'il l'a mis en avant, c'est aussi cet effet psychologique. C'est vrai qu'à force de dire ça ne va pas durer, ça va tomber, ça va se casser la figure, on peut imaginer que les choses peuvent arriver. Juste un point encore sur le taux d'emprunt, hein, puisque nous sommes sur ce thème, il y en a bien d'autres. Le fameux spread, qui est en fait l'écart de taux avec l'Allemagne, dont on parle beaucoup en Italie. Ce mot de spread est très répandu, on l'entend beaucoup dans les informations en Italie. L'Allemagne est un pays de référence, donc eh bien, le taux s'est réduit entre la France et l'Allemagne, juste pour une information. Oui, on répond à Xavier Thimbault, bien
si
sûr.
Si on essaye
Nicolas
d'avoir
Mabray.
Une vision un peu équilibrée des arguments des deux côtés. Hein. Donc, d'abord, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on peut expliquer ces conditions de financement exceptionnelles de la France aujourd'hui ? Il y a trois raisons. La première, c'est que les marchés continuent à coter le couple franco-allemand. Et qu'en 92, quand les spéculateurs, après avoir fait sauter de la livre sterling, se sont attaqués au franc, c'est la seule occasion où la Bundesbank est intervenue puissamment sur les marchés et a entraîné avec des pertes très lourdes pour ceux qui avaient attaqué le franc. Donc, premièrement, le couple franco-allemand. Deuxièmement, les crises en Italie et en Espagne. Troisièmement, la France est un pays qui a une tolérance exceptionnelle à l'augmentation des impôts. Et jusqu'à présent, quand on a augmenté les impôts, les recettes étaient là. Voilà ce qui explique aujourd'hui la position des marchés. Deuxièmement, dans les points positifs, il y a incontestablement un tournant sur le discours politique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les problèmes de compétitivité, les problèmes de flexibilité du marché du travail et les problèmes de nécessité de baisse des dépenses publiques qui étaient complètement niés ont été au moins reconnus clairement au sommet de l'État. Même si pour l'instant on n'a pas vraiment de décision en face de cette prise de conscience. Alors, quels sont les arguments maintenant de ceux qui s'inquiètent en allant vite ? Le premier,
oui,
c'est de regarder trois
décennies.
Et là, ce n'est pas la croissance potentielle, c'est la situation réelle. Donc la France, elle avait 4% de croissance au début des années 70, elle en a zéro aujourd'hui, elle va être en récession. Ça, ce n'est pas de la croissance potentielle, c'est le réel. Le chômage, 3 millions de personnes au chômage, 4,5 millions qui recherchent un emploi, avec les travailleurs...
Qui est des problèmes en France,
5 millions de,
oui, on va pas les rappeler.
5 millions de chômeurs, 91% de dette publique. Et donc, l'incapacité aujourd'hui, et le seul pays où les coûts de production continuent à augmenter et où la balance commerciale continue à se dégrader. Donc, c'est ça qui fait le risque pour
aussi.
2000... Oui, mais l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. D'accord, et le risque spécifique pour l'euro, c'est le deuxième argument, c'est de dire en 2013, on va avoir récession, poursuite du chômage, augmentation du déficit de la balance commerciale et augmentation de incapacité à tenir les 3% de déficit, alors que la France sera le plus gros emprunteur du monde en euros. Et le troisième argument qui est très peu discuté, qui est très important, c'est de dire la France est très engagée par ses banques et encore plus par l'État en termes de prêts et de garanties dans le cadre des mécanismes de sauvetage de la zone euro. Elle ne pourra pas en bénéficier parce que ses fonds sont déjà engagés et qu'elle est par ailleurs trop grosse. Et donc, elle est terriblement en risque sur ces mécanismes alors qu'elle ne pourra pas en bénéficier.
Bon,
eh bien,
voilà.
C'est dit, deux analyses assez opposées, Olivier
Nicolas,
Pastret.
Je pense que vous pourriez mettre ça en introduction de pratiquement toutes les émissions en disant voilà tout ce qui se passe mal en France. Je pense qu'autour de cette table et nos auditeurs savent très bien que la France est en crise, c'est une situation difficile. Ce qu'on essaie d'apprécier, c'est d'abord la vision qui est donnée, c'était la question posée par Dominique, qui est donnée de l'extérieur. Et là, objectivement, je trouve que les médias en rajoutent plusieurs couches et que ceux qui mettent des sous, les investisseurs, sont plutôt, eux, assez confiant dans la France. Je faisais, pour préparer cette émission, la liste des points sur lesquels, quand on compare, et je crois que Xavier Thimbault a fait une étude là-dessus, plus fouillée, plus chiffrée, quand on compare la France avec les autres pays européens, en matière de démographie, on a plutôt des bons points, en matière d'épargne, on a plutôt des bons points, en matière de solidité du système bancaire, on a plutôt des bons points, en matière de résistance de la consommation aussi, en matière de productivité, j'ai pas dit gain de productivité, j'ai dit niveau de productivité, c'est plutôt bien, en investissement direct étranger, c'est plutôt bien, au niveau de rentabilité des grandes entreprises, c'est plutôt bien. au niveau de réforme de l'État, depuis le rapport Gallois, ça commence à devenir sympathique.
Alors, je exagérer non plus.
Mais bien sûr, je prenais ça comme sous forme de boutade. Mais évidemment que c'est ce dernier point qui est essentiel. C'est que si les réformes ne continuent pas à être faites, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, même si on n'est pas d'accord sur tel ou tel type de réforme, sur la nécessité de réformer la France, je pense que, encore une fois, les entreprises étrangères continueront à mettre des sous à long terme chez nous.
Non, mais je crois que la question...
Et on aura tous les ans un numéro de The Economist qui dira qu'on est au bord du gouffre.
C'est ce qu'elles disent d'ailleurs. Hein. Elles disent qu'elles... Enfin, dans les études qui sont faites, vous avez cité cette étude de Ernst & Young, je crois qu'elle date de juin, je me semble que je suis tombée sur la même étude que vous. Effectivement, les investisseurs étrangers se voient bien s'installer en France, même s'ils restent... En revanche,
HEC, il faut le dire.
Et HEC, David n'a pas l'air au courant. En revanche, difficulté à attirer les pays émergents. C'est un des handicaps français quand même. Ils sont assez peu attirés par la France. Je le signale au passage, ce n'est pas le cas de l'Allemagne qui en compte trois fois plus.
Non, je crois qu'effectivement, tout l'enjeu... Non, mais je crois que la question, c'est de savoir si est-ce qu'on pense que le gouvernement actuel et le gouvernement précédent, ou est-ce que ça a été différent, maintiennent l'objectif d'appuyer sur la pédale de frein le moins fort possible, sachant quand même qu'il faut appuyer dessus de manière crédible. C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours sur une trajectoire crédible de réduction des déficits, sachant qu'évidemment, si on va trop vite, on arrête tout. Donc je crois qu'on est tous... c'est très, très compliqué de savoir à quel point mettre le curseur. Mais on est tous d'accord que la solution est une solution intérieure, comme disent les mathématiciens. C'est-à-dire que ça n'est pas extrême, c'est pas d'un côté ou de l'autre, évidemment. On va tous. Donc la question, c'est ce qu'on pense que le gouvernement fait ça correctement. Moi, mon sentiment, c'est que le gouvernement actuel, comme le précédent, d'ailleurs, de ce point de vue-là, gère ça aussi bien que possible, sachant que c'est quand même un truc très très difficile et qu'on est toujours sur une ligne de crête quand même très 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 délicate. Après, vraiment, je crois que les vraies questions, c'est les pures questions de croissance potentielle. On devrait parler de la croissance potentielle. Mon sentiment personnel là-dessus, c'est que en France, elle est maintenant très faible. Il faut bâtir les budgets, il faut bâtir l'expansion du périmètre de l'État, il faut bâtir les prélèvements obligatoires, etc. Il faut tout bâtir sur l'idée qu'on est sur un sentier de croissance potentielle faible, c'est-à-dire même quand on sera revenu, disons, au semi-plein emploi, et qu'on sera revenu sur un régime plus stationnaire, qu'on sera sorti de la crise, on n'ira pas à toute allure, on ira à 1%.
Il faut quand même
et la seule
tout
solution
cela...
dans ce domaine-là, c'est l'immigration. Ce qui est politiquement pas correct, mais malheureusement,
mais si,
parce que la croissance potentielle,
dit...
c'est très simple. C'est,
non, mais la croissance potentielle du revenu par habitant, disons. Enfin, oui,
C'est vrai que c'est un sujet que nous avons traité à plusieurs reprises encore récemment. Les principaux, je vais un tout petit peu dans le sens d'Olivier Passeret pour conclure. Il y a eu une visite, c'est aussi d'ailleurs cette actualité qui m'a incité à prendre ce sujet. Madame Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, qui a réaffirmé effectivement ses liens, attractivité, compétitivité, a rendu visite à une grande entreprise italienne d'ailleurs, installée en France dans le domaine de la santé. Il y a quand même des domaines d'innovation. La santé en est un. Les pôles de compétitivité, les partenariats public-privé, tout ceci sont des éléments enfin, que je mentionne au passage. Des dispositifs également d'aide à la R&D, comme le crédit impôt recherche. Vous voyez des signes positifs dans tout cela, je l'espère, les uns et les autres.
Vous demandez à Nicolas.
En fait, c'est ce qu'on a dit. Il y a une course de vitesse entre les réformes et le risque d'emballement des marchés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de 3 mois, ce n'est pas une histoire de personne ne peut dire mais cette situation, elle est de fait inquiétante. Et c'est dommage que la France n'ait pas plus profité de ce sursis avec les taux d'intérêt bas pour faire les réformes qui s'imposaient en matière de compétitivité, de flexibilité du marché du travail, de libéralisation des services et de baisse des dépenses publiques.
Mais certaines de ces réformes ne coûtent rien. Certaines de ces
Xavier Tambo, allez, le mot de la fin pour Xavier.
Je ne peux que m'opposer avec force et à nouveau à cette analyse.
On s'y attendait.
Le Royaume-Uni, les États-Unis sont dans des situations qui sont bien pires que la France, sur tous les points de vue, ou en tout cas tout à fait comparables. Et ce qui fait aujourd'hui qu'ils peuvent continuer à emprunter sur les marchés, c'est le fait qu'ils ont une banque centrale. Et donc l'urgence n'est pas la course de vitesse entre les marchés financiers. N'est pas une course de vitesse entre les réformes structurelles et les marchés financiers. C'est une course de vitesse entre les marchés financiers et les institutions qui pourraient ressembler à une banque centrale en zone euro. Et c'est là que ça se joue, et c'est là que c'est important, et c'est là que les choses se passeront demain. Et c'est pas sur le front de la croissance potentielle. David Tesmar peut nous annoncer triomphalement que la croissance potentielle pour le siècle prochain, c'est 1%, pas plus. Il n'en sait foutre rien. Vous
nous l'avez mis en colère, Xavier Thimbault.
Et s'il veut, nous pouvons prendre des paris et nous pouvons mettre de l'argent sur ces paris pour que ces paris aient un tout petit peu de valeur et pour qu'on dépasse le stade des affirmations péremptoires qui n'ont aucun fondement.
L'économie en question dans 10 ans.
Merci Xavier Thimbault.
Rendez-vous.
Rendez-vous dans 10 ans, en effet. Merci à tous les quatre. Quelques actualités invisibles pour conclure. On n'aura peut-être pas le temps d'en donner 4 d'ailleurs qui veut profiter d'un passage David Tesmar.
Cette semaine, il y a eu un jugement dans un tribunal de New York contre l'Argentine, où en gros, le gouvernement argentin a été condamné de... Donc, l'Argentine a fait défaut sur sa dette en 2001. Un certain nombre des titres de dette avaient été achetés par des fonds spéculatifs vautours, comme on les appelle. Ces fonds spéculatifs ont traîné l'Argentine en justice. Donc ça fait 11 ans que ça traîne. Et ont réussi à faire condamner l'Argentine à payer cette dette souveraine. Alors... Bon, c'est compliqué, on ne sait même pas si ça va marcher d'ailleurs, parce qu'un souverain est toujours un souverain, donc il peut toujours décider de ne pas payer. Mais en tout cas, il y a une course, en gros, il y a un rapport de force, il y a une espèce de lutte, si vous voulez, entre l'état de droit d'un côté et des souverains. Et donc ça éveille des choses intéressantes sur la question des restructurations de dettes souveraines. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se passer dans les règles de l'état de droit ou est-ce que le souverain dicte sa loi? De plus en plus de souverains émettent leurs dettes dans des juridictions anglo-saxonnes. Donc il y a une volonté de se soumettre volontairement à l'état de droit. Je crois que c'est intéressant, il faut suivre cette actualité.
Merci beaucoup David Tesmar. Olivier Pastret, une actualité invisible également.
C'est l'actu peu visible. Pan sur le bec. Le noteur a été noté. Une des trois agences de notation, en l'occurrence Standard & Poor's, a été condamnée en Australie pour notation trompeuse parce qu'elle avait très bien noté des CPDO, qui est un produit financier qui avait été vendu à des collectivités locales qui avaient récupéré 7% de leur investissement, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Donc ils l'ont attaqué. Et je trouve que, c'est une bonne chose. Deuxièmement, ça a contribué à la réflexion de l'Europe dans la position de l'Europe vis-à-vis. Vous voyez que l'Europe avance malgré ce que disent les autres partenaires de cette discussion. L'Europe est en train de discuter pour inverser la charge de la preuve. Ça sera peut-être, si l'Europe accepte ce principe, aux agences de notation prouver qu'elles sont bien notées et non pas les victimes des agences de notation de faire la preuve.
Très important.
Si on avance dans ce domaine-là, ça va bien.
Il me semble que l'agence Fitch aussi a quelques démêlés judiciaires. Je crois avoir entendu ceci. Nicolas Bavret, encore une.
Alors le Japon connaît le pire déficit commercial depuis 30 ans. C'est une situation qui est inquiétante parce que c'est un des autres pays autour duquel l'étau des marchés financiers commence à se resserrer. Deux explications. La première est bien connue, c'est la suite de la catastrophe de Fukushima et donc les problèmes énergétiques, les importations d'énergie. L'autre, c'est la tension avec la Chine et les représailles chinoises sur les exportations et les usines japonaises. Donc c'est intéressant parce que...
Ça a quand même finalement donné des effets.
Ça a un impact extrêmement fort et ça témoigne de la montée des tensions en Asie.
Xavier, encore une. Merci Nicolas Bavret.
Très rapidement, moi j'ai lu avec un certain effroi dans Libération le compte-rendu d'une lettre qui aurait été envoyée par l'Association française des entreprises privées au gouvernement concernant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui fait partie donc des conséquences du rapport Gallois. Et dans cette lettre, la FEP s'inquiète des conséquences que pourrait avoir ce crédit d'impôt sur l'augmentation de la participation des salariés dans les cadres des accords de participation et s'inquiétant de ce que ça viendrait détourner l'argent qui doit revenir aux entreprises et qui, par les accords de participation, reviendrait aux salariés. Ça montre une certaine conception à la fois du dialogue social et de la notion de participation qui est tout à fait extraordinaire et je pense qu'il y a là une chose
intéressante. Il y a encore un peu de travail.
Intéressante.
La FEP, et qui est quand même, en gros le MEDEF des très grandes entreprises, est connue pour ses positions un peu zarbi parfois.
Merci à tous les quatre. Actualités donc moins visibles que celles que nous avons traitées aujourd'hui. Xavier Thimbault, David Tesmar, Olivier Passeray et Nicolas Bavret étaient avec nous ce matin. Merci aussi à notre partenaire Libération, Écofutur de Libération, avec qui nous partageons donc des centres d'intérêt communs. Ils vont, eux, beaucoup vers le futur. Comme leur titre l'indique, cette semaine, la guerre du très haut débit mobile, révolution, nouveau gadget. C'est assez technique, mais en même temps extrêmement important sur le plan économique. Ils parlent notamment de l'arrivée de la 4G et de tout ce qu'elle peut apporter. Notre équipe ce matin, Dominique Briffaut, était assistée de Jean Frédérics. Merci à eux. Grand merci d'ailleurs à Dominique Briffaut, dont nous saluons la toute dernière émission. C'est son départ. On,
On va la regretter beaucoup. Ça fait très longtemps qu'elle travaille dans notre émission. Merci Dominique, un grand salut à toi. Laurent Genepin pour la préparation, la documentation sur notre site. Nous vous attendons pour vos commentaires, réécoutes, téléchargements et annonces des prochaines émissions. Plus évidemment, la bibliographie, la documentation dont vous pouvez avoir besoin un samedi prochain. À suivre, une fois pour toutes, c'est Dominique Souchier.